Des petits entretiens avec diverses personnes invitées, impliquées dans les figures du livre, 6e édition à Liège. Nous sommes avec Benjamin, bonjour.
Bonjour.
Donc tu es l'un des organisateurs de ce salon, de la petite édition. Et peux-tu nous retracer de manière assez synthétique les interactions de ce salon avec le comptoir du livre, qui est une librairie très active ici à Liège, et un petit peu comment tout ça s'organise dans votre logistique qui est assez complexe, mais qui en tout cas donne, je trouve, un bel aperçu de la petite édition ici en Belgique.
Alors le comptoir du livre, c'est une librairie associative qui existe depuis presque 20 ans et qui a été créée initialement par Roland Brecker, qui est illustrateur, qui a beaucoup de collaborations avec une maison d'édition qui s'appelle le Delibule. Raymond Verling, qui est un imprimeur liégeois qui est spécialisé dans l'édition de livres culturels, de livres d'art, qui a imprimé quasiment l'ensemble du catalogue des éditions Yellow Now. Et justement, une des autres personnes qui a créé le projet, c'est Guy Jungblut, qui s'occupe des éditions Yellow Now. Guy a d'abord été galeriste dans les années 70 dans le quartier Roture, et il a travaillé avec des artistes qui se posaient des questions sur les notions de valeur de l'œuvre d'art et de la diffusion, et qui développaient soit des installations d'art minimaliste, de la vidéo, mais aussi des livres d'artistes. Et c'est comme ça qu'il a développé son premier projet éditorial, avant de se focaliser dans les années 80 à 90, essentiellement sur un fonds axé sur des ouvrages consacrés à l'histoire du cinéma ou à la photographie. Et à bientôt. Et c'est aussi le beau-fils de André Blavier, qui est une figure très importante dans l'édition, membre du collège de pataphysique, qui s'occupait de Temps Mêlé, qui est une revue qui a vu
autour de Quenot.
Les petites premières revues ne sont pas autour de Quenot, en fait. Historiquement, c'est Jeanne Gavrol et Blavier qui créent Temps Mêlé, je pense, en 1952 à Verviers. Et c'est une revue qui est typiquement dans un certain esprit belge de revue surréaliste de l'après-guerre, d'après la Deuxième Guerre mondiale. Et on retrouve un peu un esprit similaire chez Fantomas ou Delibule, où c'est une revue dans laquelle on peut trouver des formes très différentes d'un numéro à l'autre. Donc un travail de mise en page, mais souvent qui change, mais celui aussi c'était souvent pour des raisons économiques. C'est souvent des gens qui travaillent avec peu de moyens, avec des chutes, et dans l'esprit beaucoup de choses très différentes. Ça peut être effectivement des gens qui sont membres du collège de pataphysique, des surréalistes, mais aussi des gens ici du mouvement comme Cobra, puis plus tard Panique. Il y a aussi des collaborations avec les situationnistes, un mélange assez détonnant, et où il y a toujours une cohabitation entre le texte et l'image. Et ça, c'est assez typique des revues de l'après-guerre en Belgique, des revues d'avant-garde, notion d'hybridité et le croisement avec des mouvements très différents.
Alors effectivement, il y a un terreau assez fertile au niveau des individualités et puis des énergies. Et, voilà, je te laisse poursuivre.
Ouais. Et donc toutes ces personnes-là sont à l'origine de la librairie, et ont créé ça d'abord pour se faire plaisir, mais aussi parce qu'ils connaissent énormément d'autres éditeurs et donner un espace de diffusion
à la petite édition.
Et donc la librairie est... La librairie est située 20 en Neuvis et est composée d'un rez-de-chaussée avec un espace librairie. L'esprit, c'est de fonctionner uniquement avec un système de dépôt-vente, en contact directement avec l'artiste, éditeur ou l'éditeur, et de valoriser essentiellement le fond de l'édition, c'est-à-dire l'ensemble du catalogue. On ne travaille pas sur les nouveautés particulièrement, on est... chez Yelono, on a quasiment l'ensemble du catalogue. Donc des choses qui ne sont plus disponibles via son diffuseur, donc des livres d'artistes des années 70, certains livres épuisés des années 80, mais on a aussi les dernières nouveautés. On représente tout le fond du Delibule aussi, qui est une maison d'édition qui a vu le jour aussi dans les années 50, d'abord une revue, une pensée. autour de Balthazar et Bury. Et là, les éditions les plus anciennes qu'on a datent des années de 66. Et on les vend toujours au prix qui est le prix éditeur.
Voilà. Donc,
forcément, ça a été indexé, mais on ne fait pas, on ne vend pas, on ne fait pas un travail de spéculation sur les ouvrages. On est en contact directement avec les producteurs, en quelque sorte. On les vend à des prix normales.
Donc c'est une démarche qui reste fidèle à celle des origines, quoi.
Et, voilà. Et alors, donc, toutes ces personnalités ont amené un fonds au sein de la librairie. Et ils ont invité plusieurs fois des éditeurs, des artistes qui eux-mêmes ont amené d'autres personnalités. Après, la librairie, elle a toujours été gérée de manière quotidienne par des employés qui se sont succédés. Et donc, les employés eux-mêmes, en fonction de leur goût,
de leur connaissance, de leur réseau,
ont amené des choses plus ou moins différentes. Pendant très longtemps, la librairie a été... prise en main, si je puis dire, par Damien Brecker, qui était le fils de Roland Brecker, qui lui était passionné de graphisme assez minimaliste et aussi de rock et de musique. Et donc lui avait développé tout un rayon sur la musique, sur le rock et également toute une réflexion sur la notion de multiple en vendant aussi bien de la petite édition liée à des petits labels de musique, mais aussi de l'estampe, ce genre de choses. Damien a arrêté de travailler pour l'association et le conseil d'administration a décidé de couper court avec tout ce qui concernait la musique, etc. Donc se refocaliser sur les objectifs de départ de la librairie et être vraiment sur la petite édition, mais papier uniquement. Les deux projets sont bien, et d'ailleurs ça manque de lieux en Belgique et en France où on peut avoir cette notion d'édition, de petits labels avec cette variété sur la musique, l'image imprimée et le livre. C'est une assez belle initiative, mais malheureusement ce n'est plus le projet actuel de la librairie.
C'était à quelle époque ça ?
Ça c'est... il y a 10 ans.
Alors maintenant, pour clore ce petit entretien, donc on a bien compris comment fonctionnait, et puis c'était une bonne manière de résumer l'esprit de cette librairie ici à Liège. Depuis que je suis arrivé, j'ai découvert hier l'importance d'un lieu qui n'existe plus, mais dont tu vas pouvoir nous dire un petit mot, qui était donc ce fameux cirque d'hiver, hein, qui ne s'écrit pas comme la saison, mais d'hiver comme la diversité. Et tu évoquais tout à l'heure, lorsqu'on échangeait déjà avant d'enregistrer, que c'était un lieu qui apportait beaucoup dans l'histoire culturelle de Liège, mais qui avait lui-même une pratique éditoriale. Donc c'est ça sur quoi j'aimerais que tu dises quelques mots, et puis aussi peut-être, comme tu l'as connu aussi dans sa dernière année d'existence, ce que ça a peut-être déclenché en toi en tant que jeune homme s'intéressant déjà à ces questions-là.
Alors le Cirque d'hiver, c'est un lieu hybride à Liège où on retrouvait, c'était à la fois un cabaret, un café, un espace où il y avait des expositions, des rencontres littéraires, des performances. L'idée aussi, c'était tout un travail sur la théâtralisation du quotidien. Donc c'était quelque chose qui questionnait à la fois le rapport au théâtre, à la performance et à aussi presque un rapport sociologique. Et c'est presque même une façon de mettre en scène le rien, les petites choses de la vie, mais avant la télé-réalité. Et on pouvait faire ça sur scène au Cirque d'hiver. C'est un projet qui a été créé par Brigitte Caquet, qui vient du théâtre, Michel Antaki, explorateur syrien installé à Liège, architecte de formation. Il y avait aussi Jacques Jaminon, qui était à l'origine du projet, qui était lui un fan de musique. Il y avait aussi Jean-Philippe Lemaire, je pense. Là, je ne suis plus sûr exactement de la composition de tous les membres d'origine. Mais un peu plus tard, il y a André Sass qui a rejoint l'équipe et qui, lui, s'est occupé pendant des années de la galerie, de l'espace d'exposition. Alors, au départ, ça a fonctionné uniquement sur la volonté des amis qui se sont fédérés et un peu grâce à la pompe à bière. Et plus tardivement, ils ont eu accès à de l'argent public. Mais le début historique du projet, c'était quand même l'idée d'une autonomie totale.
Financière. Pas de lien avec quiconque.
Il y a eu aussi un projet d'édition. En fait, le projet d'édition, il découle d'un truc tout simple, c'est que pour faire connaître les activités, il fallait faire un agenda.
Et l'agenda, un bulletin,
voilà. Et donc le bulletin, il fallait l'imprimer. Donc ils ont investi dans des presses pour faire bulletin. Et le bulletin est devenu simplement un agenda, est devenu un périodique où on retrouvait des envois de mail art, des jeux de mots, des mots croisés, des rubriques comme Catastrophe of the Month, beaucoup de choses assez mordantes, beaucoup de dérisions, des dessins de gens aussi diversifiés que Kamagoka, Glenn Baxter, Topor, mais aussi des envois de collages de Marianne. Dans ce lieu-là, ce qui était intéressant, c'est aussi que dans les expositions et comme dans les concerts, il y a énormément de gens qui sont passés et souvent on recite les mêmes parce que c'est des gens qui sont devenus célèbres ou qui l'étaient déjà un peu à l'époque. Mais c'était aussi la volonté au niveau de l'exposition et au niveau de la scène de donner de l'espace à quasiment tout le monde. Et donc il y a énormément aussi d'artistes régionaux qui ne sont pas forcément connus, qui ont eu la place. Ça aussi, il y avait aussi la volonté de présenter pour la première fois des gens qui n'avaient jamais fait d'exposition de leur vie. Tout ça au milieu d'une programmation où on pouvait retrouver Alishinsky, Topor, il y a plein de gens.
Une quantité de gens qui sont venus.
Yann Dubois qui est passé aussi. Voilà.
Très bien.
Et alors, le projet éditorial était surtout autour des bulletins. Et puis en 1992, Michel Antaki va aux États-Unis, il va à New York et il voit que il y a des gens qui sont à la rue et qui vendent, plutôt que demander une pièce, vendent un journal. Et il se dit qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et donc il veut créer un journal qui est une feuille de chou remettre un peu au bout du jour le système de colporteur en Belgique, sauf qu'à cette époque-là, heureusement ou malheureusement, ça dépend des points de vue, il y avait nettement moins de personnes à la rue en détresse comme qu'actuellement. Et donc la problématique qui était émergente, c'était la question du chômage. Et donc, il crée un journal, c'est le C4, qui, à l'initiative, était un journal pour les chômeurs, par les chômeurs. Et en fait, très vite, c'est un journal qui a été écrit et pensé plus par ce qu'on va appeler plus tard des intellectuels précaires. Le terme n'existait pas en 92, je pense, c'était pas à la mode. Il y avait sans doute une autre formule. Et donc, les premiers textes sont très universitaires, et avec aussi des approches... avec des vieux résidus de tics de langage militants des années 70 aussi de gauche et puis après il y a plein de journalistes qui ont fait aussi leur début là. Et pendant des années le projet s'est quand même resté C4 le journal pour et par les chômeurs qui était vendu pour trois fois rien et quand les exemplaires n'étaient pas vendus et c'était distribué gratuitement. Il y a quelques années par contre il y a eu un travail qui a été fait sur la après le départ de Michel Antaki qui a été fait autour de la revue et qui était complètement modifié. Donc cela c'est parti sur une revue plus luxueuse à un prix plus cher,
plus conséquent. Voilà. Très bien. Écoute Benjamin, merci pour ce petit survol autour de à la fois l'actualité du salon et puis un aspect plus historique. Et bonne fin du salon parce qu'il reste encore quelques heures avant la fin. Et souhaitons peut-être déjà une belle 7e édition. Je ne sais pas du tout quelles sont déjà les pistes, mais en tout cas, je ne doute pas que dans votre équipe, vous saurez trouver de nouvelles façons de présenter peut-être une. Et je vous souhaite une 7e édition.
Ah, on espère aussi.
Merci.